toujours un risque quand Jésus donne une parabole pour les auditeurs. Là, ce sont des pharisiens, mais c'est aussi chacun d'entre nous ce soir dans cette église. C'est de se dire, bon, on n'est pas trop concerné. D'abord, on n'est pas un pays de la vigne. Et puis, ça parle d'autres personnes. Mais on est quand même un petit peu choqué, je ne sais pas pour vous, mais par la violence de cette histoire et cette violence de ces vignerons à qui on confie cette vigne et qui sont ingrats parce que non seulement ils reçoivent cette vigne en gérance, mais ils sont incapables de payer leur loyer, de payer ce qu'ils doivent à son propriétaire et ils vont jusqu'à tuer non seulement les serviteurs, mais aussi son propre fils. Et précisément, cette histoire symbolique, cette parabole, s'adresse à chacun d'entre nous. Il y a toujours quelque chose à recevoir, parce qu'une parabole, c'est quelque chose de très large pour toucher chacun d'entre nous, mais aussi de très précis pour éveiller en nous un point de conversion, un point d'attention, de réflexion. Isaïe nous fait une belle entrée en matière, comme souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement, l'évangile est éclairé par un texte qui lui correspond, notamment dans la première lecture, l'Ancien Testament. Isaïe donc prend cette image de la vigne pour décrire la relation entre le peuple de Dieu et son Dieu. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'étudier la vigne et d'en boire le vin qui réjouit le cœur de l'homme, mais la vigne, c'est le peuple de Dieu qui est donc appelé à porter du fruit parce que le propriétaire en prend soin. La terre est retournée, on retire les pierres, le plant est de qualité pour un coteau fertile. De la même manière, Jésus présente dans cette parabole cette belle vigne confiée par le propriétaire à des vignerons. Alors ces derniers font leur travail, semble-t-il. Ils entretiennent cette vigne qui va produire du fruit, mais une part de ce fruit doit être légitimement remise au maître de la vigne, au propriétaire. Mais il semblerait qu'eux ont plus d'ambition que cela, ou en tout cas n'ont pas bien compris leur rôle, en tout cas, cette nécessité de rendre au propriétaire sa part du fruit de la vigne. Pire que cela, non seulement ils sont malhonnêtes, mais vont jusqu'à être homicides. Ils vont tuer des serviteurs et même convoiter l'héritage tout entier au-delà de la vigne en mettant à mort son propre fils, l'héritier. Nous aurons son héritage. En réalité, le Seigneur loue à chacun. Nous avons tous une part de la vigne pour que nous produisions des fruits de justice dans notre vie. Nous sommes tous, chacun à son niveau, des travailleurs de la vigne du Seigneur, quel que soit notre âge, notre force. Les serviteurs qui viennent chercher les fruits ne sont que des représentants du maître, du propriétaire, et donc ici du Seigneur, de Dieu, qui veulent contempler le travail que nous faisons, mais aussi en rapporter le fruit. Et nous voyons qu'ils ne sont pas reçus, ils sont lapidés, rejetés. Cela renvoie aux prophètes de l'Ancien Testament, qui sont souvent traités de la sorte par le peuple de Dieu. Cela nous renvoie aussi parfois à notre propre ingratitude par rapport au bien que nous recevons de Dieu. Et je vous invite à contempler aussi la bonté du propriétaire de la vigne dans cette histoire, qui ne désespère pas des vignerons et ne cesse de les rappeler à leur devoir de donner le fruit de leur travail au propriétaire. Il envoie plusieurs répétitions des serviteurs, jusqu'à même espérer que, en envoyant son fils, ils auront peut-être un éclair dans leur conscience et seront retrouvés le droit chemin en payant ce qui est dû au maître, au propriétaire. Et il envoie son fils sans esprit de vengeance, de réprimande, mais simplement pour recevoir ce qui lui est dû. Et face à la bonté du propriétaire, à sa persévérance, eh bien, nous sommes étonnés. Je pense que la plupart d'entre nous, moi je serais le propriétaire, il y a longtemps que j'aurais envoyé la police, les autorités, pour faire régner le droit. Eh bien non, la bonté de Dieu sans cesse se manifeste. Et donc la parabole nous provoque et nous invite à réagir. Le Fils suscite notre empathie, au contraire ses vignerons nous semblent odieux, insupportables. Et la parabole vient mettre en lumière dans nos cœurs parfois des sentiments d'injustice, mais aussi des volontés d'entrer dans cette spirale de la violence, alors que, précisément, Jésus ne rentre pas dans ce jeu de la vengeance, de la violence. Le public, d'ailleurs, Jésus demande, mais que faut-il faire? Et les auditeurs disent, eh bien, il faut la punition, il faut les punir. Et Jésus ne rentre pas dans ce jeu-là. Jésus ne rentre pas dans la surenchère, ne soutient pas cette réaction primaire. Jésus s'adresse à ses interlocuteurs, ce sont des prêtres, des religieux, des pharisiens, mais il ne propose aucune punition, sanction. Jésus va faire un petit détour, il va aller chercher dans le psaume 118 ces versets sur la pierre d'angle, merveille devant nos yeux. En fait, il éclaire déjà en annonçant que c'est lui, l'héritier, le fils, qui ne sera pas reconnu. Et pourtant, c'est par le don de sa vie, par injustice, que le salut peut se manifester à travers sa mort et sa résurrection. Et Elisa Lou, toi qui demandes le baptême, chose assez curieuse, mais belle, parce que ça nous renvoie à notre propre foi, voilà, c'est ce Dieu-là que tu veux suivre. Ce n'est pas un Dieu qui appelle à la révolution, à la rébellion, c'est un Dieu qui appelle à la révolution de l'amour, à répondre à la violence par la bonté. Et donc, c'est ce Dieu-là que nous essayons, tant bien que mal, nous les chrétiens, et toi maintenant avec nous, chaque dimanche, en participant à l'Eucharistie, à la messe, voilà, d'éclairer parfois les violences que nous pouvons, dont nous pouvons être auteurs dans nos propres cœurs, sur Internet, dans nos relations professionnelles, amicales. Voilà, parfois les impatiences, les jalousies, les rancœurs, les aigreurs. Voilà, tout cela, le Seigneur le domine en envoyant sa bonté. Sa réponse, c'est l'amour. Sa réponse, c'est la vérité, mais c'est l'amour. Ça n'est pas la sanction, ça n'est pas la punition. Et donc le Seigneur nous fait confiance, il nous confie sa vigne, et nous sommes appelés, bien sûr, à en donner des fruits, mais ces fruits, nous les retournons vers son propriétaire légitime. Nous reconnaissons que tout vient de lui et tout est appelé à retourner vers lui. Je pense souvent à ce verset, je crois que c'est du livre de Job, qui nous dit qu'on est né tout nu. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais on est tous nés tout nus. Et donc, un jour, on repartira, mais de la même manière. Entre les deux, voilà, qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons reçu? Quels fruits nous avons donnés dans notre vie? C'est la question, voilà, qui nous est posée. Quels fruits nous essayons de donner jour après jour, voilà, à travers nos vies, nos engagements, notre vie professionnelle, les épreuves que nous traversons, les joies et les peines. Le Seigneur est bonté et patience, et sans cesse, il veut renouer avec nous malgré nos réactions injustes et les moments où nous nous éloignons de lui. Sans cesse, il revient. En fait, cette parabole, c'est pour nous dire qu'il ne cesse de se manifester à nous, de revenir, même si parfois nous sommes un peu ingrats. Alors, demandons que le Seigneur, comme tout à l'heure, ces croix qui ont été tracées sur les oreilles, sur le cœur, sur les yeux, sur la bouche d'Elisa Lou, sur ses épaules. Voilà, qu'ensemble nous portons ce désir, qu'ensemble nous ouvrions nos cœurs, nos yeux, à la manière de saint François d'Assise. Je crois, je n'ai pas été encore voir sur Internet, mais le pape devait signer aujourd'hui un texte, voilà, sur la fraternité en allant en pèlerinage à Assise. Voilà, saint François qui voilà, a rencontré, lui qui pourtant était précisément l'héritier de la fortune familiale de cet homme d'affaires qui était son père, qui faisait du business dans le tissu. Eh bien, François a renoncé à tout cela. Il a renoncé d'une certaine manière à l'héritage. Et c'est en priant devant le crucifix de saint Damien qu'il a été saisi par le Christ et qu'il a vécu dans la pauvreté, dans le don de lui-même. Et quand on va aujourd'hui dans la basilique Sainte-Claire prier devant ce crucifix, eh bien, il nous est donné cette prière. On dit que François d'Assise a reçu cette prière qui est un moment clé de sa conversion, du don total de lui-même pour donner du fruit. Et je termine avec ces mots. Dieu très haut et glorieux vient éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître afin que je puisse accomplir ta sainte volonté qui ne saurait m'égarer. Amen.